Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal, local et régional. La qualité des rivières, le syndicat mixte des rivières Beaujolais pilote des projets qui visent à améliorer la qualité écologique des eaux du Beaujolais. Le centre de formation d'apprentis de la gastronomie, Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin la CRIRAD, contre le recyclage des déchets métalliques, des métaux contaminés issus du démantèlement des installations nucléaires. Calade, le journal. Le gaz et le nucléaire ne sont pas des énergies vertes, confie Nel Makarov, membre du réseau Action Climat et qui suit les politiques européennes au sein du réseau. À Lorraine Lavocat pour le quotidien de l'environnement, reporter. La Commission européenne entend classer dans sa taxonomie verte le gaz et le nucléaire comme énergie de transition. Une erreur, selon Nel Makarov, qui pointe une alliance toxique entre pays, dont la France, en faveur de cette décision. Cette classification fera un peu office de label vert. Une activité estampillée comme vertueuse par cette taxonomie pourra toucher des financements dédiés à la transition écologique. 37% doit être fléché vers la transition, donc vers des filières labellisées vertes. Cela concerne aussi les subventions des États membres, les prêts de la Banque européenne d'investissement ou des investissements privés. La taxonomie est donc un outil important, avec des enjeux financiers très forts. C'est pourquoi certaines industries, le gaz et le nucléaire, en premier lieu, ont très fortement poussé pour être intégrées à la taxonomie. Au départ, elle a été élaborée à partir de critères scientifiques et objectifs. Ni le nucléaire ni le gaz n'en faisaient partie. Sauf que le politique s'en est mêlé et chaque État a voulu pousser ses propres intérêts. Toute une première partie de la taxonomie a été adoptée en fin d'année dernière, classant comme vertes les énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments, l'efficacité énergétique dans l'industrie. Mais la question du nucléaire et du gaz a été laissée de côté car trop polémique. La Commission européenne a finalement décidé le 31 décembre dernier que le nucléaire et le gaz seraient considérés comme des énergies de transition. L'industrie nucléaire et le gaz fossile n'ont pas été classés comme énergie verte, mais bien comme énergie de transition, qui signifie que les critères seront revus tous les 5 ans et que l'obtention du label est soumise à des conditions. Les projets nucléaires construits d'ici 2045 pourraient être labellisés s'ils prévoient des plans de gestion des déchets radioactifs et de démantèlement. La France, quant à elle, nous dit Nel Makarov, a mené une offensive très agressive en faveur du nucléaire, mais également en faveur du gaz. Elle s'est alliée avec des pays comme la Hongrie, la Pologne ou la République tchèque pour que soient intégrées ces deux énergies. « J'ai rarement vu, nous dit Nel Makarov, un lobbying aussi fort de la part de la France. Le gouvernement a cherché par tous les moyens à orienter les discussions parce que l'avenir de la filière nucléaire française dépend énormément de cette labellisation européenne. Sans elle, elle risque de rencontrer de grosses difficultés de financement alors même qu'elle est en pleine crise économique. Rien n'est joué et le débat est loin d'être terminé. » Le syndicat mixte des rivières Beaujolais pilote des projets qui visent à améliorer la qualité écologique et chimique des rivières du Beaujolais et des eaux souterraines. Pour nous en parler, Grégoire Thévenet, son directeur.
Le syndicat de rivières a des compétences pour gérer et entretenir les rivières du Beaujolais, restaurer les milieux aquatiques, améliorer la qualité de l'eau et réduire les risques d'inondation.
Alors justement, donc, la réalisation donc, de plans communaux de sauvegarde, vous allez nous dire de quoi il
oui.
s'agit ?
Alors, on accompagne le syndicat de rivière, on accompagne les élus pour mettre en place des plans communaux de sauvegarde, donc les PCS, c'est-à-dire aider les élus à mieux organiser la gestion de crise en cas d'inondation. C'est formaliser en fait l'organisation de la gestion de crise, le rôle des différents acteurs d'une commune, qui fait quoi entre le SDIS, la gendarmerie, les élus, les établissements scolaires, etc. Donc voilà, notre rôle, c'est d'accompagner les élus à mieux prendre en compte cet outil-là et à mieux appréhender les inondations.
Alors, autre point effectivement de ces actions, c'est celle de la qualité des rivières que l'on veut retrouver.
Oui, donc on a un panel d'outils aussi qu'on met en œuvre pour améliorer la qualité de l'eau, la qualité des rivières. En améliorant la qualité des rivières, les rivières et les eaux souterraines sont en connexion. Il y a différents systèmes de connexion. Si on améliore la qualité des rivières, on va aussi améliorer la qualité des eaux souterraines. Et c'est dans les eaux souterraines qu'on a nos captages d'eau potable. Donc on améliorera aussi indirectement l'eau potable sur le territoire. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui se font depuis 10-15 ans. Et on continue avec un grand projet, le contrat de bassin du Beaujolais qui va voir le jour, porté donc par le SMRB et l'agglo de Villefranche, qui concerne 22 mètres d'ouvrage sur le territoire, des communes, des syndicats d'assainissement, d'eau potable, toutes les collectivités qui ont des compétences dans l'eau. Et ce grand projet va permettre pendant 3 ans d'investir 38 millions d'euros sur le territoire pour améliorer la qualité de l'eau. Alors nous, le syndicat de Rivière, on a dans ce contrat des actions qui vont concerner la restauration de la continuité piscicole avec des opérations qui vont permettre d'effacer ou d'aménager des seuils pour permettre aux poissons de retrouver une libre circulation, ce qu'on appelle faciliter la montaison ou la dévalaison des rivières, pour notamment que la truite fario puisse avoir un espace de vie plus intéressant. Et donc l'objectif, c'est de reconnecter plusieurs kilomètres comme ça de rivières.
Et puis aussi l'idée de la ressource, de retrouver des ressources en eau, c'est ça?
Oui, effectivement, avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit qu'on a des rivières qui sont de plus en plus souvent asséchées, de plus en plus fréquemment, sur des espaces de plus en plus longs, souvent entre les mois de mai, juin et jusqu'en octobre, on l'a vu ces dernières années. Et donc on a la nécessité de mieux connaître des déficits quantitatifs sur notre territoire, mieux comprendre où se font les prélèvements dans les cours d'eau et dans les eaux souterraines, à quelle quantité, par quel type d'acteurs. Ce diagnostic va nous permettre ensuite de proposer des solutions d'économie d'eau pour le territoire du Beaujolais.
C'était Grégoire Thévenet, directeur du syndicat mixte des rivières en Beaujolais, une discussion sur les projets de la SMRB qui vise à améliorer la qualité écologique et chimique des rivières du Beaujolais. Le centre de formation d'apprentis imaginé par le chef étoilé Christian Tête-d'Oie, dédié à la gastronomie, ouvrira ses portes en septembre 2022 au château du domaine La Croix-Laval à Marcy-l'Étoile. Le centre accueillera la toute première promotion du CFA de la gastronomie voulue par le chef étoilé, meilleur ouvrier de France. Une première en France, comme il nous l'explique à notre micro lors d'un entretien à l'ENI dans les Pierres Dorées.
Alors c'est une première en France, puisque aujourd'hui il n'y a pas de CFA uniquement dédié à la gastronomie. Cela a été possible grâce à la loi Macron de 2018. Donc je prends plein de paris. Je prends le pari en premier de changer le rythme d'alternance puisque je vais faire que des bacs pro dans ce CFA. Je vais avoir les élèves avec moi pendant 3 mois en immersion totale puisque ce sera un pensionnat. Alors pareil, il ne faut plus dire pensionnat, ça fait trop vieux, donc en internat. Pendant ces 3 mois-là, on va les préparer à rentrer dans l'entreprise et on va les préparer surtout à utiliser l'outil numérique que nous avons mis en place, sur lequel on a travaillé pendant 2 ans, qui va leur permettre de faire des cours tout en faisant leur travail dans le restaurant où ils travaillent. C'est un outil qui nous a pris du temps, qui nous a coûté de l'argent, parce qu'on a pris des professionnels pour le réaliser. Je fonde beaucoup d'espoir de repenser la formation comme elle est faite aujourd'hui en France et que cet exemple que nous allons faire pour 150 élèves par an, nous allons pouvoir le faire pour plein d'élèves en France.
D'accord. Quel type d'enseignement, effectivement ?
Alors, nous allons faire, bien sûr, des cuisiniers qui deviendront des chefs. Ensuite, des serveurs. Alors, c'est un petit peu compliqué en ce moment parce qu'il y a une pénurie de vocations, mais on va y travailler. Et puis, bien sûr, des pâtissiers et des boulangers. À terme, il est prévu une mention sommellerie et une mention gestion de services, donc accueil en réception, gestion des chambres, etc. Le lieu du CFA sera au château de la Croix-Laval à Marcy-l'Étoile. Nous allons créer donc l'internat avec 58 chambres et puis 2 restaurants, un gastronomique, un bistrot, un salon de thé et un bar aux épices et puis pour finir 2 salons où on pourra recevoir les sociétés ou les particuliers pour des banquets. Comme ça, les élèves pourront voir toutes les facettes de notre profession. Alors la rentrée officielle au château sera en septembre 22 et les candidatures à partir d'avril 22.
Dans l'actualité, le chef Christian Tête-d'Oie, nouvel ambassadeur de la mobilité hydrogène, hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mercredi 16 février, Frédéric Bonichon, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l'environnement et l'écologie positive, a remis officiellement les clés d'un Kangoo H2 au chef Christian Tête-d'Oie et à mes producteurs, mes cuisiniers, structure qui le fournit en produits locaux. La région a souhaité cette mise en disposition en partenariat avec Symbio, propriétaire de la voiture, et Impulsion, qui prend en charge la location de la voiture et donne accès au chef, aux stations H2 de la région. Cette opération concentre les politiques régionales de lutte contre la qualité de l'air, de développement de la mobilité hydrogène zéro émission et de promotion des produits locaux de qualité. Le choix du chef Christian Tête-d'Oie s'est imposé avec son étoile verte Michelin en faveur d'une cuisine durable qui passe aussi par l'usage d'une voiture hydrogène pour aller chercher ses produits. La CRIRAD, la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, se mobilise contre la libération des matériaux contaminés sans transfert de risque vers la population. Les explications par téléphone avec Corinne Castagnier, responsable de la radioprotection pour la CRIRAD.
Actuellement, vous savez qu'il y a des quantités croissantes de déchets radioactifs qui sont produits par le démantèlement des installations nucléaires. Jusqu'à présent, ces déchets ou ces matières valorisables, elles vont soit dans une installation qui s'appelle le CIRESC, une installation de stockage de déchets radioactifs de très faible activité qui est située dans l'Aube, soit elles peuvent être recyclées s'il s'agit de matières valorisables, mais uniquement dans l'industrie nucléaire, c'est-à-dire dans des circuits contrôlés. Et le projet de réglementation, je devrais dire plutôt le projet de déréglementation, c'est d'autoriser à l'avenir le recyclage dans le grand public, c'est-à-dire que ça concerne pour l'instant les déchets métalliques. Donc ces déchets métalliques pourront être envoyés vers des aciéries ou des fonderies conventionnelles et de là être utilisés pour des objets, des équipements destinés à l'industrie conventionnelle ou des objets pour le grand public.
Ce sont des matériaux qui, on peut quand même le préciser, qui normalement sont de faible radioactivité, c'est ça ?
Voilà, alors dans les débats, puisque dans le projet c'est un peu différent, un des verrous à sauter, mais dans les débats, c'est ce qu'on appelle les déchets TFA, c'est-à-dire les déchets radioactifs de catégorie très faible activité. C'est-à-dire typiquement une activité qui est inférieure à 100 000 becquerels par kilo. Mais on parle souvent, dans la plupart des cas, ce sont des radionucléides artificiels qui sont créés dans le cœur des réacteurs. Et donc l'activité normale de ces produits, c'est 0 becquerel par kilo. Donc là, l'administration a décidé que ces matériaux contaminés, s'ils respectent ce qu'on appelle des seuils de libération, à ce moment-là, ils seront considérés comme non radioactifs et ils pourront être utilisés librement. Alors seuil de libération, parce que ça veut dire en fait libération de tout contrôle. Et ces seuils, ils dépendent en fait, l'activité autorisée dépend de la toxicité des produits radioactifs et ils peuvent aller de 10 becquerels par kilo jusqu'à 10 millions de becquerels par kilo. Mais pour l'administration, dès lors que ça ne dépassera pas ces seuils, ça pourra être recyclé sans contrainte puisque ça ne sera plus officiellement radioactif.
Donc ce recyclage, on va le retrouver dans quoi ? C'est-à-dire dans nos constructions, dans nos chantiers ?
Il va y avoir des grandes quantités d'acier puisque si vous voulez, dans les gros chantiers à venir qui seront concernés par ces autorisations, le premier, c'est le démantèlement des cascades d'enrichissement de l'usine Rodif qui est située sur le site nucléaire du Tricastin dans la Drôme. Et ces cascades, ça représente 136 000 tonnes d'acier. Donc là, ce sera de l'acier. Donc cet acier, les lingots contaminés pourront être après récupérés dans des aciéries. Les utilisations, elles peuvent être variées. Si c'est réutilisé plutôt sous forme de fonte, EDF et Orano proposaient de fabriquer des contrepoids pour du matériel industriel. Donc ça peut concerner après de très nombreuses industries. Alors dans un premier temps, ça va être les industries. Ensuite, quand ces contrepoids vont eux-mêmes être recyclés, après ça peut partir dans n'importe quelle direction. Après, on ne peut plus, si vous voulez, problème du dossier, ensuite on ne peut plus assurer la traçabilité. On peut le faire pour la première utilisation, mais ensuite c'est plus gérable, quoi.
Voilà, mais ça peut arriver jusqu'à du bâtiment où il y aura effectivement
les
habitants.
Les grosses utilisations de l'acier ou des métaux, les grosses utilisations, c'est d'abord le bâtiment, fer à béton ou autre, et le deuxième, c'est l'automobile. Après, vous pouvez tout imaginer, y compris les pires scénarios, de l'acier pour faire des casseroles, pour faire des poussettes, en fait des choses qui vont être encore plus en contact avec les personnes.
En France, la gestion des déchets radioactifs est strictement encadrée par la loi du 28 juin 2006. Ceux de faible et moyenne radioactivité sont conservés au sein des centrales, dans des installations dédiées, et sont à terme compactés, incinérés ou recyclés. fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.